Notre histoire avec Marie, le rendez-vous avec la Vierge Marie. Le procès de Jeanne d'Arc révèle le cadre naturel de la vocation surnaturelle de la jeune fille.
Le 21 février 1431 s'ouvre l'un des plus fascinants procès de l'histoire de France, celui de Jeanne d'Arc. En moins de 100 jours, la jeune fille de 19 ans, prétendue analphabète et hérétique, sera condamnée à être brûlée vive. Mais dès ses premières paroles, Jeanne fait preuve d'un ton libertaire, habile et plein d'humour, qui déstabilise par la force de sa sincérité. Les voix, puisque c'est là l'essentiel, portent.
Quels sont votre nom et votre surnom ?
En mon pays, on m'appelait Jeannette. Et après que je fus venue en France, on m'appela Jeanne. Du surnom, je ne sais rien.
Quel est votre lieu d'origine ?
Je suis née au village de Domrémy, qui fait un avec le village de Greux. C'est au lieu dit Greux qu'est la principale église.
Quels étaient les noms de vos pères et mères ?
Mon père s'appelait Jacques d'Arc, ma mère Isabeau.
Où fûtes-vous baptisée ?
En l'église de Domrémy.
En ce 21 février 1431, dans la chapelle royale du château de Rouen, devant l'évêque qui s'appelait Pierre Cochon et 42 assesseurs, plus Jean d'Estivet, le promoteur, comparait celle qui deviendra, 5 siècles plus tard, la sainte de la patrie. Jeanne a été béatifiée en 1909, puis déclarée sainte en 1920, patronne secondaire de la France. Cet interrogatoire judiciaire que les vertus de la procédure ont conservé révèle l'origine de Jeanne, les racines naturelles de cette unique fleur surnaturelle, nom, lieu d'origine, père et mère, paroisse.
La France est une grande nation, composée de 36 000 communes, qui sont elles-mêmes, à peu de choses près, 36 000 paroisses, filles des apôtres évangélisateurs. Le village et la paroisse sont indissociablement liés. Ils constituent les origines naturelles et surnaturelles de ce que Jeanne appelait le Saint-Royaume de France. Non que cette terre fût peuplée exclusivement de saints, Jeanne ne savait que trop combien, de la base au sommet, elle était remplie de pécheurs. Mais à l'image de l'Église, qui pleine de pécheurs est toutefois sans péché, le royaume de France est saint parce qu'il est le royaume de Jésus-Christ, son seul vrai roi. Vérité politique en même temps que mystique, surnaturelle et naturelle, que Jeanne sera chargée de réaliser par les armes et par le sacre. Mais nous n'en sommes pas encore là. L'interrogatoire continue.
Quel âge avez-vous ?
Comme il me semble, à peu près 19 ans.
Qui vous a appris votre croyance ?
J'ai appris de ma mère Paternoster, Ave Maria, Credo. Je n'ai pas appris d'autres personnes ma croyance, sinon de ma mère.
On peut rester longtemps à se répéter ces mots qui, en 2 lignes, disent tant de richesse, Paternoster. Les 3 souhaits et les 4 demandes. La prière que Jeanne a vécue dans son âme et dans sa chair jusqu'à l'oblation finale et au « pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés » en passant par « que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Le ciel est venu lui demander d'être l'instrument de cette volonté divine sur la terre de France en un temps déterminé.
Elle dira aussi pourquoi son étendard, qu'elle aimait 40 fois plus que son épée, portait Jésus-Maria. Car Marie est l'instrument du salut, celle qui, par son oui, a permis l'incarnation. Et à sa place, Jeanne est aussi la jeune fille qui a dit oui. Elle dira encore qu'elle connaît les 12 articles de la foi. Cette petite paysanne, qui ne sait ni A ni B, comme elle le dit d'elle-même, sait en latin l'essentiel de la foi, qu'elle n'a pas appris d'autres personnes sinon de sa mère. La mère est celle qui donne la vie naturelle et transmet les éléments de la vie surnaturelle. C'est maître Jean Minet, le curé de Domrémy, qui a baptisé Jeanne et lui a donné la vie surnaturelle. Mais c'est Isabelle Romée, sa mère, qui l'a enseignée. Ainsi est gravé dans le marbre du procès criminel, aux tables de l'Inquisition, l'éminente dignité surnaturelle, en même temps que naturelle, de la mère de famille chrétienne.
Jeanne, plus tard, sera choisie, élue et élevée à une sainteté exceptionnelle, qu'on peut dire sans emphase, unique dans l'histoire de l'Église. Mais, au commencement, l'ordre de la nature doit être contemplé. Sa simplicité fait sa beauté. Avant de devenir une fleur éclatante de sainteté, Jeanne est une plante toute naturelle. Au terroir d'un village de Lorraine, au cœur d'une famille et d'une paroisse. Que Dieu y soit allé chercher celle qui assurerait le rétablissement du plus beau royaume de la chrétienté nous rappelle l'origine naturelle de ce royaume, en même temps que sa vocation surnaturelle. Quand avez-vous commencé à ouïr ce que vous nommez vos voix? Nous sommes le lendemain, le jeudi 22 février 1431, non plus dans la chapelle royale du château de Rouen, mais dans la salle du Parement. Il y a toujours l'évêque, assisté de 46 assesseurs. Il y a aussi Jean Beaupère, insigne professeur de sacrée théologie, enfant chéri de l'Université de Paris, qui va conduire l'interrogatoire. Jeanne répond.
Quand j'eus l'âge de 13 ans, j'eus une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner.
Dans ce moment, qui est l'instant le plus sacré de notre histoire judiciaire, politique, religieuse et aussi littéraire, tellement la langue de Jeanne, à l'image de celle des anges qui l'avaient formée, est douce, et belle, et humble, et parle le langage de France. On hésite à interrompre le récit de l'accusé, mais il le faut pour mieux goûter la profondeur de ses mots. À l'âge de 13 ans, à l'époque, pour une jeune fille, c'est l'âge qui permet le mariage, l'âge de la nubilité, quand les signes physiques de la fécondité apparaissent, et aussi s'il appelle en effet l'âge de la consécration. Une opinion respectable et raisonnable veut que l'anneau de Jeanne, celui que l'évêque Cochon conserva comme pièce à conviction de sa sorcellerie et qui est revenu en France le 4 mars 2016, lui avait été donné par ses parents, comme elle le dira elle-même à cet âge, et que pour elle, il représentait ses fiançailles avec notre Seigneur Jésus-Christ, à qui elle avait voué dès ce moment sa virginité.
Une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner.
La voix de Dieu n'est pas impérative, ni même autoritaire, elle est auxiliatrice. Elle vient humblement à cette jeune fille pour l'aider à se gouverner. Jusqu'au bout, et à quel prix Jeanne gardera le gouvernement d'elle-même. Ses voix l'instruisent, la conseillent, la pressent de venir en France et d'accomplir son exceptionnel destin. Mais jamais elle ne la supplée dans sa besogne qu'une telle vocation nécessite. Rien de magique, ni même de miraculeux. Jeanne n'est pas dispensée de l'effort, de la bataille, des blessures, des peines et soins, du labeur et de la contrariété, de la trahison et de la capture, de la prison et de ses humiliations.
Et la première fois, j'eus grand peur.
Cette voix de Dieu n'est pas une voix intérieure. Les voix intérieures ne font pas peur. Jeanne éprouve une grande émotion craintive, analogue à l'instant de l'amour pour une jeune vierge. C'est une présence extérieure très impressionnante. Rien d'une suggestion de la nature, ni d'une maladie mentale, un effroi sacré.
Et vint cette voix, environ l'heure de midi, au temps de l'été, dans le jardin de mon père.
Après l'effroi et la grande peur, la lumière douce et pleine, solaire, midi au temps de l'été, pas l'ombre d'une ombre. Jeanne n'est pas une hallucinée romantique, elle est solaire, éclatante de jeunesse et de victoire, en même temps que de douce poésie dans le jardin de mon père. Jeanne a reçu la croyance de sa mère, et c'est dans le jardin de son père que les voix sont venues jusqu'à elle. Pour les amateurs d'histoire sacrée, il y aurait des recherches à effectuer en vue de la béatification ou de la canonisation des époux d'Arc, Jacques et Romée, qui ont enfanté, nourri, formé dans le cadre naturel de la vocation surnaturelle de cette jeune fille. Dans le jardin de mon père, les lilas sont fleuris. Chante une vieille chanson française. Il y a ici bien plus que le lilas, même s'il y a aussi le lilas. À travers cette phrase, ce sont tous les jardins de mon père, qui sont comme canonisés. D'ailleurs, ce qui reste de Jeanne aujourd'hui, plus encore que la maison, c'est le jardin de son père.
J'ouïs la voix du côté droit vers l'église, et rarement je l'ouïs sans clarté. En vérité, il y a clarté du côté où la voix est oui. Il y a là communément une grande clarté.
À un autre moment du procès, elle dira, de façon encore plus concise, dans son style inimitable, « Au son de la voix vient la clarté ». Les orateurs profanes ou sacrés de tous les temps gagneraient beaucoup à méditer cette formule. Si du son de nos voix pouvait venir un peu de clarté, la face du monde en serait bien renouvelée. Quel enseignement vous donnait cette voix pour le salut de votre âme ?
Elle m'enseigna à me bien conduire, à fréquenter l'église. Elle me dit qu'il était nécessaire que je vinsse en France.
L'extraordinaire, la venue en France comme chef de guerre, puis chef politique, vient en second lieu. Sans rupture, mais après la conduite ordinaire, qui est de simple piété et de bonnes mœurs. Bien élevée par ses parents, Jeanne a été encore mieux élevée dans la même ligne par ses précepteurs venus du ciel. On s'est étonné de son vivant et on s'étonne encore 500 ans après de la perfection lumineuse et charmante, au sens fort du mot, de sa langue. Un Français de Christ, disait Jean Laforgue. Le plus grand de nos écrivains, disait Jean Cocteau. Cette grâce lui venait d'avoir pendant 4 ans parlé presque quotidiennement et parfois plusieurs fois par jour avec les saints et les anges. L'admiration de Jules Michelet, Jules Laforgue et Alain Fournier ou Jean Cocteau, sans parler de Péguy, de Barrès, de Claudel, de Bernanos, trouve sa source dans ce naturel aisé au cœur du plus sublime surnaturel. J'arrête là le récit que le lecteur pourra poursuivre jusqu'à son dénouement héroïque et mystique, la grande victoire qui fit passer Jeanne de l'héroïne à la sainte. Ce commencement de la vocation exceptionnelle de la jeune Lorraine dit l'attention douce et adorable du ciel pour la terre de France, le roi des cieux, pour notre royaume de la terre. Jeanne a été l'élue pour que nous sachions, une fois pour toutes, que Dieu s'occupe de la terre et des royaumes qu'il s'est choisi, tout particulièrement du Saint-Royaume de France.
J'avais étendard au champ semé de lys, et y était le monde figuré, et 2 anges à ses côtés. Il était de couleur blanche ou boucassin. Il y avait écrit les noms Jésus, Maria.
Qui vous fit faire cette peinture sur l'étendard ?
Je vous l'ai assez dit que je n'ai rien fait que du commandement de Dieu.
Jeanne est venue rappeler avec force, douleur et triomphe que
Jésus-Christ est vrai roi de France
et qu'il n'abandonne pas son royaume. En mai 1943, dans l'Oflag 4D, camp d'officiers prisonniers de guerre de 1940 à 1945 en Allemagne, où il était prisonnier, Jean Guiton, philosophe et écrivain français, membre de l'Académie française, né en 1901, mort en 1999, Jean Guiton donc écrivait.
Au fond, ces diverses Frances souffrent en grande partie parce qu'elles sont séparées l'une de l'autre. Et le jour où elles se retrouveront, elles se reconnaîtront assez vite. Encore faudrait-il un centre de pureté et de vérité autour duquel les énergies latentes viennent se grouper. Il faudra peu, mais ce peu sera tout. Un souffle, une lumière, une doctrine, une direction, une voix venue du fond de la conscience de la France et qui aille au-delà du présent. En somme, il faudrait l'analogue de ce que Jeanne fut. Sans attendre de miracle et en traduisant dans une longue durée, dans une longue chaîne d'action et de patience ce que Jeanne d'Arc en d'autres temps a exprimé en un instant fulgurant, on pourrait refaire un pays. Jeanne d'Arc nous a été donnée, pour ainsi dire, pour qu'à un âge plus avancé et 5 siècles après, nous puissions apercevoir, comme on a raccourci, tout ce que la France recèle de misère et de puissance. Et peut-être aussi pour nous faire souvenir que rien ne s'achève en ce monde réfractaire, sinon par l'oblation.
L'étude attentive et aimante des paroles vraies de Jeanne à son procès peut être le commencement de cette longue chaîne d'action et de patience. que cette étude se fasse en groupe, à quelques-uns, et le feu que le ciel a envoyé à Jeanne comme couronnement sacré de sa vocation réchauffera nos cœurs et notre nation.
Notre histoire avec Marie, 500e anniversaire des apparitions de Notre-Dame de Grâce à Cotignac.